C'est la fête d'un saint que j'aime beaucoup. J'ai même une icône de lui dans mon salon que je vénère avec beaucoup d'entrain. C'est Saint Séraphim de Zaroff, ce très grand saint russe orthodoxe qui est mort en 1833 et qui est un saint de la joie. Tellement saint de la joie que c'est un des plus joyeux saints de l'histoire du christianisme oriental. Et certainement l'un des plus grands saints et des plus grands saints joyeux de toutes nos grandes églises chrétiennes. Saint Séraphim de Zaroff, un ermite russe. Il était né le 19 juillet 1759, au moment où notre pays tombait aux mains des Anglais. Et il est décédé le 2 janvier 1833. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Savez-vous comment il saluait ceux qui l'approchaient? Il leur disait toujours « Bonjour, ma joie ». S'il leur parlait, au lieu de dire « Monsieur, madame, mon frère, ma sœur, etc. », c'est « Ma joie ». Il lance aussi continuellement une acclamation pascale tout au long de l'année pour accueillir ses visiteurs. Avec une tendresse et une bonté, les foules accouraient pour le voir. Hein, il disait « Oh, ma joie ». Christ est ressuscité, alléluia. Pour lui, d'où lui venait sa joie? C'est la joie que donne l'Esprit Saint, qui répand dans le cœur du chrétien, de la chrétienne, une communion à la liberté et à l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel saint magnifique à la spiritualité immense! Et n'oubliez pas la très sainte Vierge. Saint Séraphim disait d'ailleurs, quand le Saint-Esprit descend sur l'homme avec la plénitude de ses dons, l'âme humaine est remplie d'une joie indescriptible, le Saint-Esprit recréant dans la joie tout ce qu'il effleure. C'est de cette joie que le Seigneur parle dans l'Évangile lorsqu'il dit, une femme qui enfante est dans la douleur, son heure étant venue, mais ayant mis au monde un enfant, elle ne se souvient plus de la douleur, tellement sa joie est grande. Vous aussi, vous aurez à souffrir dans ce monde. Mais quand je vous visiterai, vos cœurs seront dans la joie. Personne ne pourra vous la ravir. Hein? Si vous voulez retrouver ce texte, cette parole de Jésus, c'est dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 16. Mais toute grande et consolante qu'elle soit, la joie que vous ressentez en ce moment, ajoute Saint Séraphim, n'est rien en comparaison de celle dont le Seigneur a dit par l'entremise de son apôtre, c'est Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Alors voici ce que Saint Séraphim cite de Saint Paul, la joie que Dieu réserve à ceux qui l'aiment est au-delà de tout ce qui peut être vu, entendu et ressenti par le cœur de l'homme en ce monde. Ah, si c'était proclamé, si c'était connu, combien les gens reviendraient vers nos prêtres dans les églises, combien nos prêtres seraient bouleversants à l'autel et quand ils nous parlent. Ce qui est accordé à présent, dit Saint Séraphim, n'est qu'un acompte de cette joie suprême. Ici, dès maintenant, nous ressentons douceur, jubilation et bien-être. Que dire de cette autre joie qui nous est réservée dans le ciel? Mais ce Saint Séraphim de Zaroff, est-ce un exalté? Dans son couvent à Zaroff, dans la province de Tambov, il a vécu des années et des années comme ermite en particulier. Il est considéré comme l'une des grandes figures qui, avec Saint Théodose de Petchersk et Saint Serge de Radonège, domine l'histoire religieuse russe. Son existence de moine, je dirais même de stylite, car il restait longtemps sur de grandes pierres en prière tant à l'extérieur que dans une pierre qu'il avait transportée, que sur une pierre qu'il avait transportée dans son ermitage. C'était un reclus, un starets, comme on dit là-bas. Et tout ça, sa vie abonde en événements intéressants et en visions et en une quantité extraordinaire de miracles fabuleux. Parmi les premiers miracles, il aurait guéri d'un rhumatisme grave un personnage important, certain Nicolas Motovilov, qui, il est d'autant plus important qu'il a écrit ensuite ses souvenirs. Et après sa mort, ce Nicolas Motovilov, sa veuve, est entrée au monastère de Divef, dans les parages de Sarov. Les souvenirs sont restés enfouis dans les archives du couvent, et c'est seulement en 1902, seulement, oui, qu'ils ont été retrouvés puis publiés un an après. On peut se demander s'ils sont authentiques, si d'autres les ont retouchés, et c'est un petit problème un peu difficile à résoudre, mais ça, on penche plutôt vers l'authenticité des textes. Et ces textes reflètent bien la mentalité de ce starets, Saint Séraphim de Sarov, et son enseignement centré sur l'effort à fournir pour comprendre la vie spirituelle en son sens le plus authentique, qui est la vie dans l'Esprit Saint. Je le répète, la vie spirituelle, c'est la vie dans l'Esprit Saint. Et ce cri qui doit jaillir de nos cœurs 100 fois par jour, 500 fois par jour, c'est « Esprit Saint, prends-moi, j'en ai marre. Esprit Saint, prends-moi. » L'homme spirituel, c'est celui qui participe à cette vie divine, qui est une vie d'amour. L'ascèse, la prière, les sacrements sont le moyen de parvenir à la possession de Dieu dans notre cœur. C'est ce que Dieu nous offre comme moyen. Citons donc un petit passage qui illustre fort bien cette doctrine. C'était un jeudi, un jour plutôt sombre, il y avait une assez haute couche de neige, recouverte de givre et de cristaux de gel. Le père Séraphim se mit à me parler dans l'enclos contigu, à celui des deux ermitages qui étaient le plus proche du monastère, en face du fleuve Sarov et adossé à la montagne. Il m'a fait asseoir sur le tronc d'un arbre qu'il venait à peine d'abattre, et il s'accroupit devant moi. Dieu m'a révélé, dit-il, qu'au temps de ta jeunesse, tu désirais ardemment connaître le but de la vie chrétienne et qu'à ce propos, tu as maintes fois interrogé des personnes importantes et expertes en spiritualité. Et l'auteur de ce texte ajoute, notons que cette pensée-là m'avait toujours préoccupé depuis mes 12 ans. Et j'avais en effet posé la question à beaucoup d'ecclésiastiques sans avoir jamais été satisfait de leur réponse. Or, le starets ignorait certainement tout cela. Et Séraphim a poursuivi. Mais personne ne t'a dit quelque chose de précis à cet égard. Ils t'ont répété, va à l'église, prie Dieu, observe ses commandements, fais du bien autour de toi, voilà le but de la vie chrétienne pour toi. Or, ils ne te parlaient pas comme il l'aurait fallu. Or, moi, pauvre Séraphim, je vais t'expliquer maintenant quel est réellement le but de la vie chrétienne. La prière, le jeûne, l'éveil et toutes les autres œuvres d'un disciple du Christ, pour excellentes qu'elles soient, ne constituent cependant pas le but de la vie chrétienne, bien que ce soit les moyens indispensables pour l'atteindre. Le but véritable, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint de Dieu. Toute bonne action accomplie pour le Christ non seulement nous procure la couronne de justice dans le siècle futur, mais dans la vie présente remplit l'homme de la grâce de l'Esprit Saint. Comment acquisition, ai-je demandé au père Séraphim, je ne saisis pas bien. Il me répondit, acquérir, c'est la même chose que gagner. Tu sais ce que signifie gagner de l'argent? Eh bien, c'est exactement pareil pour l'acquisition de l'Esprit Saint. Tu comprends, toi, ami de Dieu, ce que veut dire acquérir au sens matériel? Le but de la vie sur Terre, c'est de gagner de l'argent et de recevoir des honneurs, des distractions, etc. L'acquisition de l'Esprit Saint est aussi celle d'un capital, mais uniquement donné par la grâce et éternelle. On l'acquiert presque par les mêmes moyens que pour un capital périssable fait d'argent et d'honneur. Le Verbe de Dieu, l'homme-Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, compare notre vie à un marché et nos actions ici-bas à des achats. Et les marchandises sont les actes vertueux accomplis par le Christ. Il nous procure la grâce du Saint-Esprit, sans laquelle personne n'est sauvé, ni ne peut se sauver. Et ce même Esprit-Saint vient établir sa demeure en notre âme, et cette habitation du Tout-Puissant, cette présence en nous du Dieu Trine et Un, n'est accordée que par l'acquisition, dans la mesure de nos forces, de l'Esprit-Saint. C'est lui qui prépare dans nos âmes et dans nos corps le trône de la présence du Dieu Créateur selon les paroles divines. J'habiterai chez eux et je viendrai et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Il est vrai que chaque acte de vertu accompli pour le Christ nous procure la grâce de l'Esprit-Saint, mais c'est surtout la prière qui la donne, car elle est toujours à notre portée comme un instrument destiné à l'acquisition de la grâce de l'Esprit. Qu'il soit pauvre ou riche, faible ou pécheur, pécheur ou vertueux, tout homme peut prier. Elle est grande, la force de la prière. C'est grâce à elle que nous sommes admis à parler à notre Seigneur et Sauveur. Alors, Père, lui dis-je, vous me parlez tout le temps de l'acquisition de la grâce du Saint-Esprit et vous me dites qu'en cela consiste le but de la vie chrétienne. Mais comment puis-je le voir? On peut voir de bonnes actions, mais comment peut-on voir l'Esprit-Saint? Comment savoir s'il est avec moi ou non? Et le vénérable Starets a répondu, la grâce de l'Esprit-Saint, c'est la lumière qui illumine l'homme. C'est à bien des reprises et devant de nombreux témoins que le Seigneur a manifesté l'action de l'Esprit-Saint chez des personnes qu'il a sanctifiées et illuminées avec effusion. Rappelle-toi Moïse, la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. Or, croyez-le, croyez-le pas, Saint Séraphim de Sarov s'est souvent manifesté à des gens dans une lumière transformante, comme celle de Jésus sur le mont Tabor. Et nous verrons cela tout à l'heure. Le nom de notre saint Séraphim de Sarov était, à sa naissance, Prokhor Moshnin. Il est né à Koursk en 1759, comme je vous ai dit. C'est au centre de la Russie, disons, un peu au nord de l'Ukraine. Dans une famille de marchands, son prénom, Prokhor, c'est celui de l'un des sept diacres dont parlent les Actes des Apôtres. Sa famille, qui était profondément chrétienne, va lui transmettre toute une accumulation de prières, de bénédictions aussi. Lorsqu'il naît, son père, qui est un entrepreneur en bâtiment assez important, vient d'être chargé de construire une nouvelle église. Mais il meurt quand Prokhor, ou notre Saint Séraphim, n'a que 3 ans. Sa mère, qui pendant 12 ans va continuer à diriger les travaux, les mène bien, une femme intelligente. Et à cette époque, il y avait ce qu'on appelle le despotisme éclairé, hein, qui modernisait la Russie. On alourdissait le servage, et puis on s'en prenait plus particulièrement au monachisme organisé. Ça n'a pas été facile pour les moines. Et le peuple chrétien répondait déjà par un réveil de spiritualité féminine, dont la mère de Saint Séraphim est un bon exemple. Oui, l'enfant apprend près de sa mère à lire les psaumes. Très jeune, il s'intéresse à la Bible et aux ouvrages de spiritualité. Sa vocation monastique est donc précoce. Il y a 18 ans, il déclare ouvertement, ça me rappelle des souvenirs, c'est ce que j'ai fait, il reçoit l'approbation et la bénédiction de sa mère. Moi, j'avais fait ça à 17 ans, par exemple. T'es trop jeune, c'est trop jeune. Et sa mère lui donne alors une croix de cuivre qu'il va porter toujours sur sa poitrine. Il sera enseveli, d'ailleurs, avec sa croix de cuivre qui vient de sa mère. Porté par sa famille, par sa mère surtout, évidemment, mais le futur Séraphim est aussi porté par une église, où, malgré la compromission d'une partie là, de l'épiscopat avec l'Empire, par la suite, cet épiscopat est obligé de se compromettre avec le communisme, mais les spirituels, les hommes de Dieu ne manquent pas. Ils viennent du peuple, et ces gens-là approfondissent leur foi. À Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine, comme on sait, mais Prokhor Moshnin va consulter un starets de grand renom, un grand sage, Dosité, qui lui conseille de se faire moine au monastère de Zarov. Uniquement cénobitique, lors de sa fondation au XVIIe siècle, c'est-à-dire un monastère où il n'y a pas d'ermite, dans un lieu où se trouvaient les ruines d'une ancienne ville tatare, ce monastère était devenu aussi un désert, donc il y avait des ermites en 1764, c'est-à-dire que les ermites se dirigeaient dans la forêt, peut-être à 4-5 kilomètres du monastère. On allait leur porter du pain, c'est à peu près tout ce qu'on leur donnait. Ils vivaient seuls dans le silence. Et tout en subissant la persécution de l'État, surtout au temps de la grande impératrice Catherine II, les deux supérieurs qui ont précédé celui qui accueille Prokhor Moshnin ont été tous deux des confesseurs de la foi. Des saints, quoi. Le premier s'appelait Isaac, qui est mort en prison à Pétersbourg. Puis le second, Ephraim, a été enfermé 15 ans dans une forteresse de l'Oural. La persécution de cette église russe a toujours existé, on dirait. C'est terrible. Nos frères russes orthodoxes sont passés par des moments épouvantables à travers les siècles. Et malgré tout, tout un christianisme populaire subsiste avec ses exemples, ses conseillers, souvent des conseillers qui sont d'étranges martinaux, comme ceux-là qu'on appelle, vous devez connaître ça, j'espère, les folles en Christ. F-O-L-S, folles, c'est le mot masculin, en Christ. Ah, il y a des livres magnifiques publiés là-dessus, c'est passionnant à lire. Oh, ce sont des exaltés, d'accord, ce sont des gens étranges, mais quelles âmes merveilleuses souvent on rencontre chez ces Russes. Ils vivaient, quoi, la folie de la croix, jusqu'à sembler avoir perdu vraiment la raison, ce qui leur valait souvent le mépris des uns, mais aussi la vénération des autres. Ne jugeons pas trop, de façon trop catégorique, ceux que nous pouvons voir autour de nous qui sont des folles en Christ. Il y avait un fol en Christ un jour qui a interpellé en pleine rue la mère du futur saint pour lui prophétiser comme ça: « Heureuse es-tu d'avoir un fils qui deviendra un puissant intercesseur devant la Sainte Trinité, un homme de prière pour le monde entier. » Alors, porté par les siens dans la foi, porté par une église simultanément populaire et ascétique, notre futur saint est enfin pris en charge par la grande tradition monastique. Et le 20 novembre 1779, la veille de la présentation de Marie au temple, eh bien, Prokhor, âgé de 19 ans, est reçu comme novice. Il passe par les obédiences, c'est-à-dire, on lui demande de faire telle et telle et telle chose, on appelle ça des obédiences. Il passe par les obédiences de divers travaux manuels. La boulangerie, puis la menuiserie. Et la menuiserie, bien, il l'aime particulièrement. Pourquoi? Par un souci d'imitation de Jésus, qui était charpentier. Et on retrouve ça dans sa vie spirituelle. Ça le rapproche d'ailleurs, d'une certaine façon, de la spiritualité de l'Occident chrétien, de l'Église latine, où nous avons une grande dévotion à ça. Quoi qu'il en soit, on appelait volontiers Prokhor le charpentier. Il lit alors la Bible, les pères de la doctrine et de l'ascèse. Il reçoit des influences de Saint Macaire, qui a écrit de nombreuses homélies des siècles et des siècles et des siècles plus tôt. Ça se traduit dans son langage. Et il est jeune moine, alors il pratique la psalmodie, la prière de Jésus aussi, la fameuse prière de Jésus que vous connaissez, n'est-ce pas? Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur, que les Russes souvent répètent à l'infini. Pour saisir ce qui a été probablement sa première expérience, il faut citer ses conseils qu'il donnera plus tard à un postulant. Il lui dit, « Ne perds pas courage. Dieu est là. » Vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas de courage, rappelez-lui toujours, « Dieu est là. Dieu est en toi. » C'est une des plus grandes consolations. C'est la plus grande des consolations. Il ajoutait à l'Église, « Sois attentif. » On ne pense pas suffisamment à être attentif pendant la messe, même si c'est moche. Familiarise-toi avec les offices. Il faut se familiariser avec les textes de la messe du lendemain, préparer sa messe. Une très bonne méthode, c'est le samedi soir d'écouter le Père Guimond à Radio Ville-Marie et d'écouter cette messe. Ça nous prépare à la messe du lendemain. Il dit aussi, dans ta cellule, applique-toi à la lecture, surtout du psautier. Il fait ça pendant 2 ans de vie monastique, à genoux, à préparer mon psautier, à mettre des croix là où tout pouvait avoir un rapport avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on possède le psautier, les psaumes. Relis chaque verset plusieurs fois afin de le garder dans ta mémoire. Il ajoutait, en travaillant, répète continuellement la prière, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. » Et en priant, ramasse ton esprit et réunis-le à ton cœur. C'est bien ça, ramasse ton esprit et réunis-le à ton cœur. Je dirais, quand vous prêchez, mes chers prêtres, ramassez votre esprit. Réunissez-le à votre cœur. Ensuite, quand le Seigneur aura réchauffé ton cœur par sa grâce, dit Saint Séraphime, en union avec l'Esprit, ta prière coulera sans interruption et sera toujours avec toi, te réjouissant et te nourrissant. Quelle richesse, c'est ce saint! Et le 13 août 1786, à 27 ans, Mimprecor prononce ses vœux monastiques et reçoit le nom donc de Séraphime. Pourquoi? Parce que c'est un nom hébraïque. C'est le nom hébraïque des anges de feu. C'est un nom qui signifie flamboyant. Et le 2 septembre 1793, c'est au moment où la terreur commence à Paris. Il y a des massacres de quantité de prêtres à Paris. Eh bien, lui-même devient prêtre. Il célèbre chaque jour la liturgie eucharistique russe. Et ainsi, Saint Séraphime a été triplement accueilli, porté, fortifié, par sa famille, par son église admirable, par la tradition monastique. Et cet homme grand, robuste, joyeux et d'une beauté spirituelle rayonnante a quelque chose d'angélique. Depuis son enfance, il semble comme poreux à l'invisible. L'invisible le pénètre de tous côtés. Et en 1783, mais il ne le révélera qu'avant sa mort, au cours d'une maladie, une hydropisie qui semble inguérissable, la mère de Dieu que nous avons tant célébré hier lui est apparue, suivie des apôtres Pierre et Jean, auxquels elle a dit, montrant le novice, ces paroles prodigieuses, c'est superbe, celui-ci est de notre race. Que c'est beau! Et elle toucha de son sceptre le côté du malade, et l'eau mauvaise s'écoula, et il fut guéri, gardant comme une cicatrice la marque du miracle. Et plus tard, moine et diacre, Séraphime voyait les anges prendre part au service liturgique. Et un jeudi saint, il vit le Christ ruisselant de lumière, traverser l'église et bénir fidèles et célébrants. Notre saint Séraphime est de plus en plus désireux de se retirer et de vivre comme un ermite. Il a été constamment pris par le désir de se donner vraiment totalement, totalement. Et c'est ainsi que vient une scène de passion. Séraphime recevait parfois des hôtes. Il aidait des serfs fugitifs et on s'imaginait qu'il cachait de l'argent dans sa hutte. Et le 12 septembre 1804, il vit comme ermite, il a 45 ans, il est pris à partie par deux brigands. Avec la hache qu'il avait à la main pour faire son travail, pour se couper du bois, il aurait pu se défendre, mais il la jette. Et il tend l'autre joue, selon le conseil de Jésus. Et un des bandits saisit la hache. Il assène du revers des coups violents à Séraphim, qui reste longtemps comme mort. Il est presque mourant, quoi. Revenu à lui, peu à peu, il parvient très lentement à se traîner jusqu'au monastère et au bout d'une semaine de grande souffrance, les médecins renoncent à le soigner. Il croit qu'il va mourir. Mais alors, de nouveau, il y a une apparition et c'est la Mère de Dieu qui est accompagnée de Saint-Pierre et de Saint-Jean. Et elle prononce les mêmes paroles que tout à l'heure. « Celui-ci est de notre race et la guérison est miraculeuse. » Mais toutefois, Séraphim va marcher courbé, appuyé sur un bâton. Ses cheveux sont devenus blancs. Son visage s'est intériorisé. Il y a là une anticipation d'une métamorphose spirituelle qui permet parfois, au grand âge, de se manifester et qui fait de tout vrai moine, quel que soit son âge, un beau vieillard. On voit ça dans les monastères, hein? Un beau vieillard. On voit ça aussi dans le mariage chrétien. Et Saint Séraphim retourne donc dans son ermitage. Et quand les bandits, ils l'ont assailli, sont arrêtés, qu'est-ce qu'il fait? Ils plaident leur grâce. Ils menacent de quitter le monastère et le pays s'ils ne sont pas remis en liberté. Et ils se convertissent. Devant tant de bonté. Un peu comme celui Ali Hacha qui a essayé d'assassiner Jean-Paul II. On dit que son cœur est transformé en prison. Mais comment ne leur aurait-il pas pardonné, lui? Car plus que jamais, il a conscience d'être le dernier des pécheurs. Plus que jamais, on peut dire que dans les soubassements infernaux de la condition humaine, il affronte les puissances du mal et de la mort. Être ermite, c'est ça. À Rencontre, à la télévision, nous avions eu, Marcel Brisebois et moi, nous avions invité un ermite. Et c'est ce qu'il nous racontait. Dont Adalbert de Vogüé, ermite à la pierre qui vire. De 1804 à 1807, tandis que Napoléon construit son empire et affronte pour la première fois la Russie, Séraphim, lui, se fait stylite, c'est tout le contraire. Et c'est lui qui vaincra. La nuit, debout sur un grand rocher, il lève les mains. Il répète sans cesse les paroles du publicain. « Seigneur, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Et le jour, il prie sur une autre pierre située plus près de sa hutte, cherche et prépare sa nourriture d'herbes sauvages, prend un peu de repos. Et ainsi, Séraphim, qui récapitule le passé monastique, si on peut dire, il récapitule ainsi le passé cosmique et plus profond que les déformations démoniaques de l'être, que le présent tragique de l'histoire, prend pied sur le roc, qui est le Christ. Et alors, à travers une croix ultime, le royaume à venir va s'entrouvrir à lui. Et à partir de 1807, Saint Séraphim s'enferme dans un silence absolu. Il n'échange plus une parole avec ceux qui l'entourent. Il se jette devant eux la face contre terre jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il a prévenu ses premiers enfants spirituels en disant « Le silence absolu est une croix sur laquelle l'homme se crucifie avec toutes ses passions ». Mais dans ce vide, dans cette mise à mort de la mort, l'Esprit Saint peut monter. Le porteur de la croix devient porteur de l'Esprit. Et le silence, comme disait Saint Isaac le Syrien, est le langage du monde à venir. Et là, la condition de mort et de séparation où l'humanité se trouve captive, mais la 16 en fait d'abord prendre conscience. Et alors, en 1810, sur l'ordre du niveau supérieur de Sarov, et à la suite de misérables intrigues monastiques, des moines sont allés jusqu'à démolir le petit poêle de sa hutte, Mais Séraphim rentre au monastère. Mais c'est pour y vivre en reclus. Il s'enferme dans sa cellule. Il lit chaque semaine les quatre évangiles. Ça se lit bien en une semaine, quatre évangiles. Il lit aussi la règle de Saint Pacôme. C'est publié, ça, aux éditions du Seuil, si ça vous intéresse. Il fait chaque jour 1000 prosternations. On appelle ça, chez les Russes, les grandes métanies. On les voit, mais ça ressemble un peu aux musulmans, si vous voulez. C'est cette grande prosternation. Il prie devant une icône de la Vierge de tendresse. Vous savez, cette belle Vierge de tendresse où la tête de la Vierge est appuyée contre la joue de son enfant, là. C'est très, très beau, ça. Oh, j'en ai bien, pendant une période où j'avais rien à faire, de ma mise au rancard jusqu'à mon entrée à Radio Ville-Marie, j'en ai pas distribué 1000, je n'en ai pas distribué une de ces Vierges de tendresse encadrées, n'est-ce pas? Et il prie devant une icône comme celle-là. Il aime nommer cette Vierge, joie de toutes les joies. C'est vrai que la Vierge est la joie de toutes les joies. Il ne dort presque plus, et seulement à genoux, la tête entre les mains, car il veut être en vigilance, dans l'attente nocturne du Christ, son époux, l'époux de son âme. Et ça marque la transmutation par grâce de tout le contexte biologique de son existence. Et pendant les 10 ans que dure sa réclusion, Séraphim accentue encore, mais dans une perspective de plus en plus résurrectionnelle, je dirais, il accentue sa mémoire de la mort. Il porte une lourde croix de fer sur les épaules. Il médite sur son propre cercueil. Et des visions de lumière lui sont accordées, comme il racontera plus tard à son disciple Jean Tikhonov. Il voit la beauté des demeures du paradis. Il dit qu'il voit les saints, les prophètes, les martyrs, les apôtres, rayonnant d'une gloire et d'une joie infinie. Ce n'est plus l'être angélique des premiers pas de sa vie monastique, car en Christ, il est descendu dans les abîmes de la condition humaine. C'est sûr, il a uni le terrestre au céleste. Et ceux qui l'entrevoient disent alors de lui, selon une très très ancienne expression monastique, qu'il est devenu équivalemment un ange terrestre ou un homme céleste. Alors la métamorphose s'achève dès ici-bas, et à partir de 1815, Saint Séraphim de Zaroff ouvre à quelques visiteurs la porte de sa cellule, mais il ne parle pas encore. En 1820, il commence à donner des conseils, et enfin en 1825, après 37 ans, oui, 37 ans d'une ascèse vertigineuse, et sur un ordre de la Mère de Dieu, il sort dans le monde pour servir les hommes. C'est ce qu'on appelle, là, comme je vous ai dit tout à l'heure, un starets. Pour employer une expression décisive du monachisme originel, un ressuscité. Séraphim est devenu prière. Oui, il est devenu prière. Non plus même demande. Il est devenu silence dans la prière. Il peut obtenir la grâce de voir, comme Paul ou comme Saint Jean à Patmos, puisque le Christ, quand on est dans le Christ, il n'y a plus de séparation entre le ciel et la terre. Voici ce que je te dirai au sujet du pauvre Séraphim, raconte-t-il à Jean Tikhonov. Un jour, en lisant dans l'évangile de Saint Jean ces paroles du Sauveur, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Eh bien, je fus pris du désir intense de voir ces demeures, et je passai 5 jours et 5 nuits en veille et en prière, demandant au Seigneur la grâce de cette vision. Et le Seigneur, dans sa grande miséricorde, m'accorda cette consolation, et me montra ces demeures dans lesquelles je vis resplendir, oh, si c'est dans mon corps ou hors de mon corps, je ne sais, une céleste et ineffable beauté. Et là, le père Séraphim s'est tu, puis s'est penché un peu, a baissé la tête en fermant les yeux, a mis sa main droite sur son cœur. Son visage se transfigurait peu à peu et rayonnait d'une merveilleuse lumière. Eh bien, lumière et joie, Saint Séraphim de Sarov était parvenu à ce que Maxime le Confesseur nomme l'usage non passionnel de la joie d'être. Car dans la joie chrétienne profonde, il n'y a pas de passion. Règne une sérénité immense. La joie n'est pas un péché, disait Séraphim. Elle chasse la lassitude, qui engendre la tristesse pour la mort, la pire des choses. Nous n'avons pas de raison d'être tristes, puisque le Christ a remporté en tout la victoire. Il a ressuscité Adam, il a libéré Ève, il a tué la mort. Cet usage non passionnel de la joie d'être englobe quoi? Ça englobe même une transformation de l'éros. La petite sœur Marie, qui était entrée à 13 ans dans la communauté féminine de Divayevo que Séraphim avait fondée, et morte à 19 ans, a été pour lui l'ami de prédilection. Or, à elle seule, il parlait de certaines visions, de certaines prophéties, et il pleura quand elle est morte. Même pour les saints, la mort garde quelque chose de contre-nature. Il envoyait des cierges à profusion et leur donnait qu'on la revêtisse du grand habit réservé aux moines expérimentés. Entre les doigts de cette adolescente de 19 ans, endormie, morte, un chapelet de cuir qui était un cadeau du starets Saint-Séraphim. Autour de sa tête, un beau châle bleu à franges qu'il lui avait donné pour aller communier. Et cette parole extraordinaire, dans l'autre monde, elle sera mon épouse pour l'éternité. Il faut être arrivé à un sommet de pureté pour écrire des choses comme ça. La métamorphose de Saint-Séraphim a entraîné un changement radical de sa relation avec la nature et avec l'humanité. Et en ce qui concerne la nature, on pourrait vous raconter des tas d'épisodes merveilleux. Disons que l'été, lorsque Séraphim, ermite, allait dans les marais ramasser de la mousse pour fumer son potager, il se déshabillait presque complètement, ayant ceint ses reins et les insectes le piquaient. Bien, un témoin a voulu les chasser, mais on va loin. Saint Séraphim, citant le grand psaume des Laudes, vous savez, le fils du matin où l'on chante la gloire de Dieu dans les monastères, et les prêtres aussi qui récitent leur bréviaire, ou bien des laïcs, chantent ça autant que possible le matin, eh bien, il lui dit, ne les touche pas, ma joie. Vous savez, je vous ai dit qu'il appelait tout le monde ma joie. Ne les touche pas, ma joie. Que tout souffle loue le Seigneur. Tout ce qui a un souffle, les animaux, un souffle, les insectes, c'est touchant. Et ça rappelle bien des orientaux dans le bouddhisme, le grand respect de toute vie. Vous direz, mais c'est un exalté, un fou. Ben oui, je vous ai dit, c'est un fou en Christ, un fou en Dieu. Mais c'est un très grand saint. Dans sa relation avec l'humanité, Saint Séraphim de Zaroff a reçu en plénitude des grands charismes. C'est les charismes qui font le starets, ce grand sage dans l'Église russe. Ceux de la paternité spirituelle, le charisme de la paternité spirituelle, que doivent demander tous les prêtres du fond de leur cœur, et particulièrement nos évêques. Il avait aussi le charisme de guérison et ce charisme de prophétie. D'abord et fondamentalement le charisme de paternité. Pendant des journées entières, Saint Séraphim accueille, console, guérit spirituellement des foules. Je connais des femmes dont une amie très intime qui a ce charisme de maternité spirituelle. C'est très doux et c'est très beau. Il lui arrive à Saint-Séraphim de recevoir des centaines de personnes par jour, certaines d'un seul mot, montrant l'icône de la Vierge de tendresse et disant « C'est la joie de toutes les joies ». D'autres qu'il distingue plus longuement, il les reçoit plus longuement, tous accueillis avec l'expression pascale devenue célèbre « Ma joie, le Christ est ressuscité ». Il a le don de discerner les esprits pour confesser et conseiller. Prenant sur lui les péchés des autres, se prosternant à côté du pénitent, il lui ordonne de prier pour ses péchés à lui, Séraphim. parce que les saints sont des pécheurs conscients. Et dans leur communion mystérieuse, tous sont coupables pour tous. L'étalage des fautes ne l'intéresse pas, c'est le cœur qui l'atteint pour y provoquer et y approfondir l'humilité et la foi. Dans la foule, donc, il distingue immédiatement les affligés, les désespérés, ceux qui ont vraiment besoin de lui, et avant tout, il souhaite arracher les âmes de ce que saint Paul appelle la tristesse pour la mort, et qui va devenir le nihilisme fondamental de la civilisation moderne. On vit dans un monde du rien. On rit de rien, on s'amuse de rien, on voit des spectacles vides, des films vides, on lit des livres vides, on est vide. C'est le nihilisme. On nie l'existence de Dieu. On nie son amour pour nous. On nie la divinité de Jésus-Christ, évidemment. On nie l'Eucharistie. On nie l'Église. On nie le péché. On nie le bien, le mal. On nie tout. Notre civilisation s'en va à la dérive. Il faut arracher les âmes, ça. Et le discernement des esprits, mais ça lui permettait de lire au tréfonds des âmes, de déceler et d'ouvrir cet abcès secret, d'inquiéter, de mettre en route, de consoler au sens de l'esprit consolateur. C'est Dieu qui nous console. On le sent bien, nous qui croyons, on le sait. Partager notre joie. Si nous pouvions donc la partager, presque de force. Mais saint Séraphim sait sans savoir. Il n'objective pas l'autre comme le fait le psychanalyste. Il respecte son secret, le découvre insondable en Dieu. Il attend de Dieu seul comme une révélation, la parole qui soulage et qui guide. Rien dans le cœur du prochain ne vous reste caché, lui dit-on un jour, et il répond, ce que tu dis là n'est pas juste. Le cœur de l'homme est insondable, Dieu seul le connaît. Pour moi, je me livre au Seigneur comme le fer dans la main du forgeron, alors je considère comme une indication venant de Dieu la première pensée qui se forme en moi. Je ne connais pas ce que mon interlocuteur porte au fond de son âme. Je crois seulement que Dieu me fait dire à cet homme telle ou telle chose pour son bien spirituel. Il y a cependant des cas où, après avoir entendu une confidence, je néglige de me remettre à la volonté de Dieu et je décide selon mon intelligence sans recourir à lui. Et dans ce cas, je me trompe toujours. Et cette paternité, comme celle de Dieu qu'elle manifeste, transcende la dualité sexuelle. C'est une paternité maternelle, une paternité maternelle. Et saint Séraphim, renouvelant une antique indication monastique, disait au supérieur de Zaroff, « Sois une mère pour tes moines. » Il y a aussi le charisme de la guérison physique qui apparaît d'une manière très évangélique comme le signe de la guérison spirituelle. Toutes deux réalisées par le Christ ou par sa mère, la Toute-Sainte, qui est le trône de la sagesse, le trône de l'esprit de toute sainteté, c'est ça qu'est Marie. Et la guérison désigne et manifeste donc l'incarnation de la divine sainteté. Et saint Séraphim a été à deux reprises miraculeusement guéri par l'intervention de la Mère de Dieu. Après sa première guérison, il avait fait une quête pour construire dans l'infirmerie du monastère une chapelle. Et ainsi se symbolise autour de l'Eucharistie remède d'immortalité, on pourrait dire la salvation ou la libération de l'être tout entier. Souvent, quand il guérissait, saint Séraphim ne faisait que répéter cette prière d'avant la communion, que la participation à tes saints mystères, Seigneur, soit pour moi la guérison de mon âme et de mon corps. Oui, la guérison de mon âme et de mon corps. La première personne qu'il a délivrée d'une maladie désespérée, Mantourov, de son nom, il la fit en lui faisant une croix d'huile bénite et en disant, « Par la grâce que Dieu m'accorde, je te guéris du premier. » Imantura fut guéri aussitôt, se jette à ses pieds, et Séraphim le relève et lui dit sévèrement, « Mais que fais-tu donc? Est-ce que Séraphim peut faire mourir ou faire vivre, conduire aux enfers ou en faire sortir? Sache bien que seul le Seigneur le peut. Remercie donc le Seigneur Tout-Puissant et sa mère très pure. » Charisme de clairvoyance, de prophétie. Ce charisme, Saint Séraphim l'exerce parfois pour des individus, parfois aussi pour son pays, voire pour l'humanité tout entière. Il a prédit des événements terribles et de merveilleux événements aussi. En 1831, la veille de l'Annonciation, Saint Séraphim reçoit sa 12e et dernière apparition de la Mère de Dieu. « Bientôt, mon ami, tu seras avec nous. Quelle joie attend l'âme lorsque les anges viennent la chercher, disait Saint Séraphim. Il annonce, « Je vous quitterai bientôt. » Et un moine s'attriste. Oh, il dit, « Ce n'est pas le temps de la tristesse, mon ami, c'est celui de la joie. » Comme il a raison, hein? C'est le plus beau jour de notre vie que notre mort. Le plus grand jour. Moi, j'en suis archi-convaincu. C'est vrai. Mettons-nous ça dans la tête jusqu'au tréfonds de notre âme. Ce n'est pas le temps de la tristesse, mon ami, c'est celui de la joie. Et le jour du nouvel an, 1833, un dimanche. « Voici, je fais toutes choses nouvelles, dit le Seigneur dans l'Apocalypse. » Et bien Séraphim communia, il fit ses adieux à tous les frères présents. Et dans la soirée, on a entendu chanter des hymnes de Pâques. Ce n'était pas le moment liturgique, mais celui du destin. Et le matin, on le trouva mort, à genoux devant l'icône de la Vierge, joie de toutes les joies. Les mains croisées sur sa poitrine, comme il est représenté sur bien des icônes. Oui, les mains croisées sur sa poitrine et les yeux clos. Un cierge tombé a fait fumer l'étoffe de ses vêtements. Ça avait attiré l'attention. C'était le signe prédit par le saint, que sa mort serait annoncée par le feu. Il avait reçu le nom de Séraphim, celui qui est du feu. Il aimait dire, ah, et ça je suis bien d'accord avec lui, Dieu est un feu qui réchauffe et embrase les cœurs et les entrailles. Je répète, c'est trop beau. Dieu est un feu qui réchauffe et embrase les cœurs et les entrailles. Peu avant sa mort, reprenant les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14, se les appliquant par participation, il avait dit, « Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je reste vivant. Parlez-moi comme à un vivant. » Selon Saint Séraphim, l'acquisition du Saint-Esprit, je vous le rappelle, exige un renversement radical, non seulement par rapport à ce monde, mais par rapport au moralisme, au pharisaïsme de la vertu et de l'ascèse auquel on a réduit le christianisme. Les vertus, les prouesses ascétiques en soi sont stériles, dit Saint Séraphim, qui s'y connaît, il les a pratiquées. Notre volonté propre, qui nous a servi en réalité à la volonté diabolique, ne consiste pas seulement dans l'abandon au mal, elle nous pousse aussi à pratiquer la vertu par vanité ou uniquement pour le bien, faire le bien au nom du bien. Tel était le cas selon l'interprétation que donne Séraphim des vierges folles. Ce qui compte, c'est l'huile des vierges sages. C'est cet abandon à la grâce par humilité, la foi et l'amour. Je suis à la porte et je frappe. Je suis à la porte et je frappe, dit Jésus. Si vous voulez lire la vie de Saint Séraphim de Zaroff, procurez-vous aux éditions de l'Œil un petit livre de 100 pages de Louis Albert Lassus, un dominicain. Le Starets Séraphim de Zaroff, Joie et Lumière aux éditions de l'Œil. Pascal Pingot, fondateur d'une communauté en France, m'avait envoyé en cadeau un magnifique livre, « Lumière pour les temps de la fin », la vie de Saint Séraphim de Zaroff, publié chez Fayard. en 88. Très beau livre et qu'il a tout écrit à la main. Enfin, il y a un livre qui vient de paraître aux éditions Fides de Lucien Coutu, le père Lucien Coutu, père de Sainte-Croix, clerc de Sainte-Croix, La méditation hésicaste, c'est la prière de Jésus, là, à l'écoute d'une grande tradition de l'Orient. C'est chez Fides, ça vient de paraître, de Lucien Coutu.